proposant la lecture de quelques passages dans le livre de la Genèse. Tout d'abord, au chapitre 28, verset 10. Et Jacob sortit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Et il se rencontra en un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit des pierres du lieu et s'en fit un chevet et se coucha en ce lieu-là. Et il songea, et voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici l'Éternel se tenait sur elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta semence, et ta semence sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident, et à l'Orient, et au Nord, et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai dit. » Et Jacob se réveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Et il eut peur, et dit que ce lieu-ci est terrible. Ce n'est autre chose que la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa en stèle et versa de l'huile sur son sommet et il appela le nom de ce lieu-là Bethel. Ensuite au chapitre 31, verset 3. Et l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et vers ta parenté et je serai avec toi. » Verset 11, et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob. » Et je dis, « Me voici. » Et il dit, « Lève tes yeux et vois, tous les boucs qui couvrent le menu bétail sont rayés, marquetés et picotés de blanc, car j'ai vu tout ce que t'a fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu oignis une stèle, où tu me fis un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta parenté. » Au chapitre 32, verset 24. Et Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha l'emboîture de sa hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob fut luxée comme il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et il dit, « Je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il dit, « Jacob. » Et il dit, « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Et Jacob demanda et dit, « Je te prie, déclare-moi ton nom. » Et il dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela le nom du lieu Péniel, car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. Et le soleil se levait sur lui comme il passait Péniel, et il boitait sur sa cuisse. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent point du tendon qui est sur l'emboîture de la hanche. Car il toucha l'emboîture de la hanche de Jacob sur le tendon. Au chapitre 35, verset 9, verset 1er d'abord. Et Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel, et habite là, et fais-y un autel au Dieu qui t'apparut, comme tu t'enfuyais de devant la face d'Isaü, ton frère. » Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez vos vêtements. » Et nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, et je ferai là un autel à Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les cacha sous le térébinthe qui était près de Sichem. et ils partirent, et la frayeur de Dieu fut sur les villes qui les entouraient, et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Et Jacob vint à Luz et Bethel, qui est dans le pays de Canaan, lui et tout le peuple qui était avec lui. Et il bâtit là un autel, et il l'appela le lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui, comme il s'enfuyait de devant la face de son frère. Et Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut, elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous un chêne dont le nom fut appelé Alon Bakut. Et Dieu apparut encore à Jacob à son retour de Padan Aram et le bénit. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Et il appela son nom Israël. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Fructifie et multiplie, une nation et une multitude de nations proviendra de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et je donnerai le pays à ta semence après toi. Et Dieu monta d'auprès de lui dans le lieu où il avait parlé avec lui. Et Jacob érigea une stèle au lieu où il avait parlé avec lui, une stèle de pierre, et répandit dessus une libation, et y versa de l'huile. Et Jacob appela le nom du lieu où Dieu avait parlé avec lui, Bethel. Au chapitre 46. Et Israël partit, et tout ce qui était à lui, mais il vint à Beersheba et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans les visions de la nuit, et il dit, « Jacob, Jacob !» Et il dit, « Me voici !» Et il dit, « Moi, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte, et moi, je t'en ferai aussi certainement remonter. » Et Joseph mettra sa main sur tes yeux. Et Jacob se leva de Beersheba. Et enfin, le passage qui nous parle de la foi de Jacob en Hébreux 11, c'est le verset 21. Par la foi, Jacob mourant, bénit chacun des fils de Joseph, et adora, appuyé sur le bout de son bâton. Nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Donc nous avons entre les mains un saint livre, un livre divinement inspiré, de la première jusqu'à la dernière page. C'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous instruit, et le but de Dieu, il faut toujours voir le but de Dieu, c'est de nous bénir, qui que nous soyons. S'il y avait ici une âme qui n'est pas toute certitude quant à son état devant Dieu, qu'elle est en paix avec Dieu, eh bien Dieu a en vue son bien aujourd'hui, en désirant qu'elle se tourne vers lui et qu'elle accepte le seul moyen de salut qui lui est offert, à savoir le sang de Christ qui purifie de tout péché. Et cette œuvre du Seigneur Jésus est parfaite. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Il suffit simplement d'accepter le message que Dieu nous adresse au tréfonds de notre cœur. Il ne s'agit pas d'une adhésion purement intellectuelle. Ce qui importe, c'est que le cœur et la conscience soient touchés. Ce qui est toujours vrai quand nous lisons l'Écriture, pour que la parole de Dieu nous fasse du bien, il faut que notre cœur et notre conscience soient travaillés par cette épée de l'Esprit. Et Dieu ainsi nous parle, pour nous attacher à lui. dès l'instant où nous avons la foi en Jésus, étant passés par une vraie repentance, reconnaissant que nous sommes des êtres perdus, déchus, pécheurs, perdus, eh bien, Dieu nous offre la foi et nous la communique, la foi en sa parole, en la vérité, telle que la parole la présente. Et dès cet instant, immédiatement, nous sommes déclarés enfants de Dieu. Et Dieu s'occupe de sa famille, de ses enfants, avec beaucoup de soin. Il nous suffit de lire la vie de Jacob pour être édifié sur ce point, que Dieu s'occupe de chacun de ses rachetés avec beaucoup de soin. Sans doute, il désire que nous adhérions à son plan pour chacune de nos vies. Il y a quelquefois des écarts. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il est divinement tracé selon ses voies à notre égard. Et il est important, bien sûr, que nous nous engagions dans ce plan, que nos cœurs adhèrent entièrement à ce que Dieu attend pour chacun de nous. Et plus nous sommes dépendants du Seigneur, plus nous serons heureux dans notre vie. Et on peut dire que le témoignage d'un croyant heureux, il n'y a rien de plus puissant, de plus éloquent que cela. Cela fait même envie à nos frères et à nos sœurs. Et nous leur sommes utiles quand nous rayonnons quelque chose de l'amour, de la paix que Jésus donne. Mais c'est vrai aussi pour tous ceux qui nous voient vivre dans notre voisinage, dans notre vie professionnelle. Ces jours-là, d'un vrai bonheur de croyant, Jacob ne les a pas goûtés très longtemps. Néanmoins, la fin de sa vie est comme un très beau soleil couchant, parce qu'il a appris ses leçons. Dieu a pris tout son temps pour les lui apprendre. On pourrait dire qu'il a fallu 130 ans pour qu'il apprenne des leçons vitales, essentielles dans la vie de tout croyant. Et nous, si nous rejetons un regard en arrière pour chacun de nous, nous pouvons être confondus par la miséricorde de Dieu à notre égard, par ses compassions, par sa fidélité, par tout ce que Dieu est en relation avec ses chers enfants que nous sommes. Nous donnons beaucoup de peine à notre Dieu pour nous former, pour nous éduquer, pour nous répéter certaines leçons. Mais il le fait toujours avec beaucoup de patience, avec beaucoup de fidélité. Car Dieu ne va pas abaisser son niveau à notre propre niveau. Non, il veut nous élever à son propre niveau. Et la parole est toujours là pour nous indiquer le chemin de l'homme parfait. Nous avons une tendance fâcheuse ou regrettable de nous comparer les uns aux autres. L'Écriture ne nous invite jamais à faire cela. Nous devons considérer le parfait modèle, le vrai serviteur, qui a toujours fait la volonté de son maître. Bien sûr, la vie des hommes et des femmes que Dieu nous présente dans l'Écriture nous est utile pour ne pas recommencer certaines expériences amères qu'ils ont pu faire. Et si notre foi saisit de telles leçons, nous n'aurons pas besoin nécessairement de répéter une telle expérience. C'est pourquoi la parole nous est extrêmement utile pour cette raison et pour bien d'autres. Et il importe que nous la lisions avec prière, avec un exercice de cœur chaque jour renouvelé pour tirer profit de tout ce que Dieu nous donne dans sa parole qui est divine, parfaite, qui est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, pour séparer en nous, à notre insu peut-être même, ce qui est de la chair d'avec ce qui est de l'esprit. Et ainsi le travail de Dieu se poursuit, nous sommes édifiés, il y a une croissance qui se produit, comme dans la vie de l'être humain. Que dirait une mère si son enfant restait toujours au même stade de l'enfant? Elle serait affligée, attristée par une telle maladie. Cela n'est pas normal. Il y a différents stades dans la croissance humaine et il y en a aussi de différents dans la croissance spirituelle, comme nous le dit Jean, lorsqu'il considère la famille de Dieu, et à chaque âge, il y a un état normal que Dieu approuve, reconnaît. Il y a l'état du petit enfant pour lequel l'Esprit de Dieu prend beaucoup de soin quant aux enseignements qui leur sont dispensés. Il y a l'état des jeunes gens qui sont forts parce qu'ils ont vaincu le méchant et que la parole de Dieu habite en eux. Et puis il y a les pères qui connaissent celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire Christ. Christ leur suffit. Et c'est un père qui nous parle dans l'épître aux Philippiens, par exemple, lorsqu'il nous dit que Christ est sa vie, que Christ est son modèle, que Christ est son but, le but vers lequel il court, et qu'il est sa source de joie et sa source de force. Lorsqu'il dit « Je puis toute chose en celui qui me fortifie », eh bien, c'est toujours Christ, dans toute son expérience, dans toute sa plénitude. Et il est précieux de voir comment des pères marchent à la gloire du Seigneur lorsque Jésus remplit leur cœur. Eh bien, nous voyons que Dieu s'occupe de nous comme il s'est occupé d'un Jacob depuis sa naissance, on peut le dire. Et il y avait une prophétie qui était annoncée dès la naissance de cet enfant, en même temps que celle de son frère jumeau qui était son aîné. Et nous savons ce qu'il en est advenu par la suite dans cette famille qui paraissait pendant un temps bien unie. Le départ était des plus heureux, Genèse 24 nous l'indique. Il y avait la foi tant chez celui qui méditait au puits de la Kairoï, au puits du vivant qui se révèle à l'approche du soir, que la foi chez celle qui deviendra sa femme lorsqu'interrogée quant la possibilité de suivre le serviteur d'Abraham, elle dit, et qu'on lui dit « Iras-tu vers cet homme ?» Avec cet homme, elle dit « J'irai ». Il y a le « j'irai » de la foi, une décision de foi prise dans le cœur aussi bien d'Isaac que de Rebecca. Et par la suite, après la naissance de ces deux enfants, on voit que chacun de ses parents avait le sien. Parce que cela correspondait sans doute à leur nature humaine propre. Et il est dit que Isaac aimait Ésaü parce que Ésaü lui procurait des mets savoureux du gibier, qui était la viande de son choix, alors que Jacob, un homme simple qui habitait sous les tentes, était plus proche de sa mère. Et nous voyons qu'il y avait sans doute une intimité avec sa mère. Mais cette mère avait avec elle l'esprit de sa propre famille qui sans doute a déteint sur son enfant. Et si nous ne vivons pas près du Seigneur, il y a des caractères de famille qui s'affirment et qui peuvent être nuisibles au développement spirituel de la famille, au développement moral et spirituel. Nous voyons que, quelles que soient les sphères dans lesquelles nous sommes placés comme croyants, nous avons toujours besoin de nous appuyer sur le Seigneur. Le Seigneur peut nous procurer de douces joies dans nos vies familiales, encore faut-il les goûter en communion avec lui. Et puis voilà que Isaac approche de sa fin, bien qu'il ait eu encore pas mal d'années à vivre, mais selon l'estimation des hommes, il pensait qu'il devait bénir le fils de son choix, alors qu'il connaissait la prophétie qui avait été donnée au moment de la naissance de ses enfants, « Le plus grand sera servi au plus petit ». C'est Dieu qui avait déclaré cela. Eh bien, Rebecca, consciente de ce qu'allait faire Isaac, utilise des moyens humains pour dérober la bénédiction d'Isaac, Isaac réservée à Ésaü. Sans doute, c'était un manque de spiritualité. Il nous est dit que, à propos d'Isaac, que ses yeux étaient affaiblis de manière à ne plus voir. Cela a sans doute une signification morale aussi. Il y avait à la fin de la vie de cet homme qui était plutôt tranquille quant à son comportement, un homme de paix, on peut le penser. Il y avait un certain fléchissement moral et spirituel. Et il avait perdu de vue que Dieu voulait bénir le plus jeune l'asservir à l'aîné, asservir l'aîné à ce plus jeune. Eh bien, sans doute que s'il y avait eu l'attente de la foi du côté de Jacob, Dieu se serait chargé de prononcer cette bénédiction. La chair n'attend jamais le moment de Dieu, elle est impatiente. Elle veut obtenir satisfaction immédiatement ou le plus vite possible. Mais nous voyons que Dieu est plein de compassion. Et il y a là un stratagème que nous connaissons bien qui est développé dans le chapitre 27 où Jacob, sous l'instigation de sa mère, va dérober la bénédiction à son frère, que Isaac voulait destiner à son frère. Et nous voyons que à trois reprises, il ment et il trompe. Ce sont les fruits de la chair. Cela n'a pas lieu de nous surprendre. Quand nous agissons par la chair, nous ne savons jamais à quelle extrémité nous pouvons aller. Nous avons toujours besoin d'être gardés. Déjà notre langue, tout ce que Dieu nous en dit, nous le savons. C'est très humiliant, mais c'est la vérité. Cette langue dont Jacques nous dit qu'elle peut bénir et qu'elle peut maudire. Et combien nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être gardés jusqu'à la fin de nos jours. Eh bien, Jacob réussit à se faire passer pour Ésaü, moyennant un travestissement. Il a trompé son père et le père découvre la chose, car Dieu ne peut pas cacher ce qui est fait en secret et qui le déshonore. Il faut qu'un jour les choses soient manifestées tôt ou tard. Et nous savons que Isaac est saisi d'un tremblement très grand, que Jacob appellera plus tard la frayeur d'Isaac. Un tremblement très grand. Il sent sans doute qu'il s'est trompé. Mais il doit dire et reconnaître que ce qui est de Dieu ne peut pas être annulé. Et il dit, je l'ai béni aussi, il sera béni. Verset 33 du chapitre 28. Et alors la conséquence, c'est que Ésaü, sachant la chose, désire tuer son frère. Nous retrouvons là l'esprit de Caïn. Par ailleurs, Ésaü paraissait très sympathique. Mais c'était la sympathie dont la chair est capable dans certaines circonstances où elle est placée. Il n'y avait rien de la foi comme nous le voyons. Quant à tout le comportement d'Ésaü tout au long de sa vie, d'abord son mariage. N'oublions pas qu'un mariage manifeste ce qu'il en est de notre foi. Quelqu'un qui a la vraie foi au Dieu vivant désire, avec le secours du Seigneur, une épouse croyante qui ait à cœur le témoignage du Seigneur. Eh bien, Ésaü n'a tenu aucun cas de ces choses-là, et sachant que la mère, Rebecca, sachant que Ésaü avait des pensées dans son cœur de tuer son frère, lui demande de s'en aller dans son propre pays, à Padan-Aram, pour avoir là-bas une compagne et être loin des regards de son frère meurtrier. Cette attitude n'a pas lieu de nous étonner. Dès que l'ennemi s'empare d'un cœur, eh bien, cela peut aller jusqu'au meurtre. Et voilà que Jacob est invité par son père et par sa mère à quitter le foyer paternel. Sa mère elle-même aura cette souffrance, sans doute. On peut le comprendre pour un cœur de mère de ne plus revoir le fils qu'elle aimait. Elle avait contribué à cet état de choses et on peut supposer que Dieu l'a utilisé pour son bien. Par ailleurs, Jacob s'en va et ce que nous avons lu dans la première scène est une première rencontre avec Dieu. D'ailleurs, nous avons lu cette rencontre de Dieu, de l'Éternel avec Jacob. C'est dire combien Dieu s'est occupé de Jacob, s'est révélé à lui, lui a parlé dans le secret de son cœur, à travers toutes les circonstances par lesquelles il est passé pour aboutir au résultat que Dieu se proposait pour lui. D'attacher son cœur avec une foi vivante à ce Dieu qui avait tant de patience avec lui. Une personne qui a abordé un jour un évangéliste lui a posé cette question. Je ne comprends pas pourquoi Dieu a dit « J'ai haï Ésaü ». Malachie, chapitre 1er. L'évangéliste lui a répondu « Eh bien moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu a dit « J'ai aimé Jacob ». Et combien cela aussi peut nous toucher. Que Dieu, après que tous ces hommes aient vécu leur vie et manifesté les fruits qui avaient leur source dans leur cœur, eh bien Dieu doit déclarer ce qu'il pense de l'un et de l'autre, comme il le fera pour chacun de nous. Et on peut dire que cette parole relative à Jacob est bien la manière dont Dieu s'est occupé de lui avec beaucoup de soin et de fidélité. Eh bien, ici, dans la première scène, alors qu'il s'en allait à Padan Aram, à Charan, il est là, tout seul, c'est la nuit, et nous voyons qu'il fait des pierres son chevet, et il avait pour couverture une nuit étoilée. Il était là, et Dieu était là, où se trouvait ce proscrit. Dieu ne le perdait pas de vue, comme il ne nous perd pas de vue. Et Dieu va lui faire des promesses. Il est là, avec un songe. Dieu nous parle, Dieu peut parler à l'homme dans un songe. Il le faisait beaucoup dans les récits de l'Ancien Testament, parce que la parole n'était pas complète. Il peut le faire encore, c'est vrai. Dieu se sert de toutes choses pour notre bien. Eh bien ici, voilà une vision, cette échelle qui était dressée sur la terre et dont le sommet touchait aux cieux. Et des anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Voilà aussi une vision très instructive en ce sens que Dieu a voulu établir des relations entre lui et l'homme. Et les anges sont des esprits administrateurs envoyés en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Ils ont un rôle qu'ils accomplissent en serviteurs obéissants pour le bien des rachetés du Seigneur. Et ici, il y avait sans aucun doute un homme dont Dieu s'occupait et se proposait de s'occuper avec beaucoup de soin dans la solitude de cette nuit mémorable où lui-même a une conscience chargée lourdement. Il sait ce qu'il a fait. Et quand Dieu lui fait ses promesses, très belles, inconditionnelles, « Je serai avec toi », ne prenons que ce verset pour nous-mêmes, il est déjà très significatif. Dieu désire être avec nous, mais nous voyons dans cette scène que Jacob n'est pas avec Dieu. Et il dit que ce lieu-ci est terrible. Dès qu'une âme a une mauvaise conscience et que la présence de Dieu lui est sensible, elle désire s'enfuir aussitôt. Que ce lieu-ci est terrible. Voilà l'appréciation de quelqu'un dont la conscience est travaillée et chargée plutôt. Ce n'est autre chose que la maison de Dieu. Et c'est ici la porte des cieux. Bien sûr, il dresse une stèle. En se levant de bon matin et verse de l'huile sur son sommet et il appelle ce lieu-là Bethel. Et puis, que fait-il? Ce qui démontre bien qu'il n'était pas touché par la grâce de Dieu, il fait un marché avec Dieu. Ses tendances légales s'affirment. Si tu fais ceci, moi je ferai cela. Voilà ce qui est propre à l'homme naturel qui traite avec Dieu d'égal à égal. Si tu fais ceci, moi je ferai ceci. Et le supplanteur, celui qui fait des marchés, se retrouve dans cette proposition qu'il fait à Dieu. Nous ne l'avons pas lu, mais c'est intéressant de la relire, verset 20. Si Dieu est avec moi, il ne lui parle même pas directement, si Dieu est avec moi et me garde dans le chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger, un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. Voilà. Et puis il parle de donner la dîme, donc il se place sous la loi. L'homme religieux aime bien se placer sous la loi, avec beaucoup de prétentions, ne réalisant pas qu'il est incapable d'accomplir cette loi qui s'adresse à l'homme en Adam. Et pourtant, l'apôtre Paul nous dit en Romains 7 que cette loi est sainte, juste et bonne, ce commandement de Dieu. Mais l'homme, en Adam, dans son état naturel, n'est capable que d'une chose, c'est de la transgresser. Il n'y a rien de bon, rien de bien dans l'homme. Mais Jacob ne savait pas cela. Et il va falloir son stage de 20 années chez Laban pour être brisé, pour être meurtri, frustré. Il aura plus fort que lui, il aura son véritable miroir dans la personne du rusé Laban. Car il a affaire à quelqu'un qui a les mêmes tendances que lui. Et Dieu permet quelquefois cela dans nos vies, pour briser le ressort de notre propre volonté. Et ce qui va se produire, le Jacob d'après Padan Aram paraît tout différent. Mais Dieu a compassion de lui, et dans les deux révélations qu'il fait au chapitre 31, il lui renouvelle le fait qu'il sera avec lui. Retourne au pays de tes pères. Il avait donc une parole de Dieu pour revenir vers Canaan. Il l'avait quitté, Dieu lui avait fait une promesse au départ, il lui renouvelle sa promesse qui montre toute la fidélité de Dieu, qui ne nous perd jamais de vue. Alors retourne au pays de ton père et vers ta parenté et je serai avec toi. Et puis un peu plus loin, l'ange de Dieu qui lui dit toujours en songe, qui confirme ce que l'Éternel lui a dit quelques versets plus haut, et Jacob d'ailleurs lui dit « Me voici ». C'est déjà quelque chose de très beau. Il y a une relation entre Jacob et son Dieu. Il est disposé au moins à écouter. Avant, il parlait de Dieu et de ses marchandages. Il comptait avec Dieu. Maintenant, il est disposé à écouter parce que c'est un homme qui commence à être brisé, qui est travaillé par tout ce qu'il a souffert comme berger. Comme un berger asservi à un maître dur et cruel. Et alors, Dieu lui dit, l'ange de Dieu lui dit, « Je sais, j'ai vu tout ce que t'as fait Laban. » Dieu voit tout ce que nous souffrons dans ce monde qui est marqué par les deux traits essentiels du péché, la corruption et la violence. Et un chrétien qui a la vie de Dieu ne peut pas ne pas souffrir dans un tel monde. Cela est tout à fait évident que la vie divine, comme la colombe que Noé avait lâchée de son arche, ne pouvait pas se poser sur une terre, sur la terre, qui était sous les conséquences du péché. Et le croyant, pareillement, sent bien qu'il est sur une terre étrangère qui est souillée par le péché. D'où la souffrance. S'il a à cœur d'être fidèle à son Dieu. Et Dieu lui dit, tu m'as fait un vœu, je ne l'ai pas oublié. Tu as même Dieu tient compte de ce vœu. Pourquoi nous n'avons pas à faire de vœux maintenant? Eh bien parce que nous avons toute l'écriture, toute la pensée de Dieu nous est donnée dans sa parole et nous avons des relations de grâce, d'amour avec notre Dieu. Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants, et un enfant ne fait pas de vœux avec son Père, ou alors il le connaît mal, il le connaît mal. La relation d'amour est celle qui est la plus précieuse pour unir deux êtres, et il n'y a pas là de si, de condition. Tout est fait par amour pour celui qui est l'objet de notre cœur. Retourne au pays de ta parenté. Il y avait donc un ordre de Dieu. Dieu pouvait, pour ainsi dire, reconnaître que l'école avait duré tout un temps et si elle était nécessaire, il suffisait maintenant qu'il revienne vers sa famille propre. Et alors, nous avons cette scène du chapitre 32, extrêmement précieuse, où, cette fois-ci, Jacob rencontre Dieu face à face. Il y a là le merveilleux travail de la grâce de Dieu dans cet homme. Mais ce n'a pas été sans lutte. Une vraie lutte avec l'ange de Dieu. Il reste seul, d'abord c'est encore la nuit, la deuxième nuit. Dieu travaille beaucoup pendant la nuit. Dans nos nuits, Dieu peut nous parler. On a dit à propos de Salomon, qui était extrêmement occupé, que Dieu lui a parlé par de songes. Peut-être n'aurait pas écouté de la même manière. Et la nuit aussi est profitable pour que l'oreille de notre cœur soit attentive à tout ce que Dieu peut avoir à nous dire. Eh bien ici, il y a un homme qui lutte avec lui. Et jusqu'au lever de l'aurore, donc toute la nuit, un vrai combat. Et Jacob ne cède pas. Il a l'habitude de dominer. C'est un homme énergique, il emploie toute sa force pour résister à son adversaire. Mais bien sûr, ce n'est pas un combat d'égal à égal. Et il suffit à celui qui est le représentant de Dieu, là, de toucher l'emboîture de sa hanche. Et Jacob, de ce fait, sent toute sa faiblesse. Sans doute, Dieu déclare qu'il a prévalu. Et c'est le prophète Osée qui nous donne le secret de la victoire de Jacob. Au chapitre 12, il nous est dit qu'il pleura et le supplia. Donc c'est un homme qui prie, qui remporte cette victoire. Prophète Osée, chapitre 12, il est dit au verset... Déjà au verset 4 qui relate cet événement au moment de sa naissance, Osée 12, 4, dans le ventre, il prit son frère par le talon et par sa force, il lutta avec Dieu. Oui, il lutta avec l'ange et prévalut. Deux points qui nous donnent l'explication de cette victoire. Il pleura et le supplia. Voilà comment Jacob peut porter un nouveau nom. Il n'est plus le même en sortant de Péniel. Il y a un nouveau soleil qui luit. Il a rencontré Dieu face à face. Et son âme, dit-il, c'est sa propre expérience, a été délivrée. On peut voir là aussi les exercices que nous pouvons avoir à propos de l'affranchissement en Christ. Une âme affranchie, c'est une âme délivrée. Délivrée de tout lien. De lien avec le monde, de lien avec la chair, le moi qui nous habite, de lien avec la loi. La loi demeure, mais c'est le vieil homme qui est crucifié à la croix de Jésus. Et Jésus a supporté les exigences de la loi à la croix. Il était dit maudit et quiconque est pendu au bois. Seigneur a été fait malédiction pour nous, et il nous offre en retour de cette œuvre parfaite la délivrance, si bien qu'un croyant non seulement sait que Christ est mort pour lui, mais il doit déclarer, c'est un pas de plus dans sa vie de foi, je suis crucifié avec Christ. Il s'identifie par la foi avec la mort de Christ, et c'est la merveilleuse délivrance de l'affranchissement, un sujet que nous avons à travailler toute notre vie. Sans doute il y a une phase, il y a un péniel où nous saisissons par la foi l'importance et la valeur de cette vérité, mais on peut dire que l'affranchissement est à vivre tous les jours de notre vie. Et il y a croissance aussi dans la jouissance de cette vérité. L'affranchissement total, c'est notre mort, c'est la délivrance terminale de la chair qui habite en nous jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Mon âme a été délivrée. Et en même temps, il nous est dit, il boitait sur sa cuisse. Détail qui, moralement, a toute sa valeur. Il avait maintenant besoin d'un bâton pour marcher. Autrement dit, de s'appuyer sur un secours extérieur. Il ne pouvait plus compter sur le Jacob des jours d'autrefois, qui était très, très avide de la bénédiction de Dieu, mais qui désirait l'acquérir par les moyens dont l'homme est capable. Et là, il y a un tournant très marqué dans la vie de cet homme de Dieu, de cet homme de foi. Il boitait sur sa cuisse, il réalisait qu'il n'avait plus de force en lui-même. Comme l'exprime Paul dans le chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens, « Quand je suis faible, alors je suis fort. » Dieu utilisant toutes les circonstances pour nous briser de façon à ce que nous n'utilisions que la force qui est en Dieu. Et cette énergie qui nous vient de Dieu seul, elle peut remporter des victoires chaque jour. Victoire de la foi, victoire sur nous-mêmes, sur le monde qui nous entoure, sur Satan. Car Satan, nous avons à le rencontrer. Il peut avoir des instruments que sont des êtres humains sur la terre, mais nous voyons qu'il affronte le Seigneur au désert de la tentation, après 40 jours de jeûne. Il se présente avec des tentations extrêmement subtiles concernant les convoitises des yeux, les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Nous retrouvons ces convoitises fondamentales par lesquelles l'ennemi voudrait faire sortir l'homme parfait du chemin d'une entière dépendance de son Dieu. Mais il est vaincu comment ? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Il est écrit à trois reprises. Christ cite l'Écriture. Combien en passant, il est important que nous connaissions la parole de Dieu pour résister à un ennemi vaincu, qui néanmoins ne s'avoue jamais vaincu et essaie toujours de nous tenter de nous faire sortir du chemin de l'humble dépendance de notre Dieu. Et bien maintenant, voilà un homme boiteux qui s'engage dans un nouveau chemin avec son Dieu. Oh, ce ne sera pas parfait, c'est sûr. On retrouvera cette tendance familiale encore. Elle va s'affirmer dans bien des circonstances. Mais Dieu est là. Il a vu Dieu face à face. Son âme a été délivrée. Cette expérience, il ne l'oubliera plus. Et à la fin de sa vie, on peut dire qu'il en profite pleinement. Et au chapitre 35, eh bien, nous retrouvons Bethel, une injonction de l'Éternel de nouveau qui se révèle à lui. Monte à Bethel, la maison de Dieu. Il faut monter, Et il y a des choses dans mon foyer qui sont incompatibles avec ce que Dieu me demande. Car lorsque nous avançons dans la vie chrétienne, Dieu veut toujours nous amener à des sommets. Des sommets de bénédiction, nous sommes en communion avec lui. Et où sommes-nous effectivement en communion avec lui? Dans sa maison. Là où nous jouissons de sa présence. Bethel, c'est la maison de Dieu. Et Dieu nous veut là, c'est là que nous sommes en sécurité. Alors, monte à Bethel, habite là, et laisse, bâtis, fais-y un autel au Dieu qui t'a paru, comme tu t'enfuyais de devant la face d'Ésaü, ton frère. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas ce que Jacob a fait. Et nos défaillances, nos écarts. Christ, le rocher des siècles, sur lequel nous pouvons nous fonder, nous établir fermement. Et alors, nous voyons que Jacob a affaire avec la sainteté de Dieu. Pour adorer, nous ne pouvons le faire, nous ne pouvons réaliser que notre autel est une chose réelle que sur un terrain de sainteté. Et c'est pourquoi il faut que les dieux disparaissent de la maison. Qu'est-ce que c'est que ces idoles dont l'apôtre Jean nous dit de nous garder? Eh bien, il y a une définition extrêmement simple, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs, Car en fait, tout se joue dans le cœur du croyant, comme dans le cœur de tout homme d'ailleurs. Les vraies décisions ne sont pas prises en raisonnant logiquement. D'ailleurs, c'est un faible pourcentage de l'être psychique qui raisonne. Tout le reste est sentiment, désir, impondérable. Des choix qui ne sont pas dictés par des raisonnements logiques. Et dans le domaine de la foi, eh bien, la décision est prise aussi dans le cœur. Sinon, les choses ne tiennent pas longtemps. Alors, Jacob donne des ordres à sa maison. Le chef de famille reste toujours responsable de son foyer. C'est une vérité qui traverse toute l'Écriture, un principe plutôt, un principe divin. La famille est appelée à se soumettre en quelque sorte au chef du foyer qui aura des comptes à rendre à Dieu lui-même, pour son administration. C'est vrai de toutes les sphères où nous sommes responsables. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu, chacun d'entre nous. Eh bien, ici, il ressent la nécessité de bâtir cet autel, d'entrer en relation avec Dieu sur la base d'un sacrifice, et il sait que c'est le Dieu qui lui a répondu au jour de sa détresse. Il avait des ennemis, son propre frère, il avait Laban, son oncle et beau-père. Il y a eu beaucoup d'événements nombreux dans sa vie où il avait tout à craindre. Eh bien, il doit reconnaître en étant à Bethel que Dieu avait été fidèle, que Dieu l'avait délivré, avait répondu au jour de sa détresse. C'est une très belle expérience d'être dans la détresse et de voir comment Dieu s'y prend pour nous délivrer. C'est quelque chose de très précieux qui n'appartient qu'à la vie terrestre du croyant. Nous faisons sur la terre des expériences qui, en un sens, sont uniques au regard de l'éternité. Et puis, nous voyons donc que cet autel est bâti et un peu plus loin, Dieu renouvelle ses promesses. Dieu renouvelle ses promesses et remarquons qu'il maintenant il révèle son propre nom, le nom sous lequel il se fait connaître au patriarche. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Pour nous, Dieu est notre Père. C'est une relation bien plus précieuse et plus élevée, sans doute. Bien que les patriarches avaient beaucoup de bonheur en étant en relation avec le Dieu Tout-Puissant. Il pouvait être sur la terre comme un Abraham, père des croyants étrangers qui réalisaient au chapitre 18 de ce même livre de la Genèse une communion avec Dieu des plus précieuses, un entretien avec Dieu, et nous le voyons aussi intercesseur dans la présence de Dieu. Il y avait donc des relations d'intimité, mais qui sans doute ne sont pas aussi riches que celles qui appartiennent à la relation du peuple céleste de Dieu, qui connaît Dieu comme son Père. Et alors maintenant, le Dieu Tout-Puissant se révèle à Jacob. Dieu lui a changé son nom à Peniel, et bien, il continue de l'appeler Jacob. C'est surprenant, jusqu'au dernier passage que nous avons lu, au chapitre 46, Dieu l'appelle encore Jacob. Il y a toujours du Jacob en chacun de nous, jusqu'à la fin de nos jours. Nous ne devrions jamais l'oublier. Et en même temps, ce titre glorieux qui appartient au peuple que Dieu a racheté, Israël de Dieu, prince de Dieu, vainqueur de Dieu, ceux qui triomphent par la foi, ceux qui appartiennent à ce peuple que Dieu se propose de bénir. Et il y a là tous les accents d'un cœur reconnaissant qui dresse de nouveau une stèle au lieu où il avait parlé avec lui. Jacob érigea, verset 14, une stèle au lieu où il avait parlé avec lui, une stèle de pierre, et répandit dessus une libation et y versa de l'huile. Et il appelle de nouveau ce lieu Bethel. Il avait parlé avec lui. Comme il y a croissance dans la vie de foi de Jacob, il y a là, disons, un signe très sûr de sa communion avec Dieu. Dieu lui parle et lui échange avec Dieu ses propos. C'est cela qui symbolise cette vie de communion à laquelle nous sommes appelés les uns et les autres. Et au chapitre 46, c'est la dernière manifestation de Dieu. Il nous est dit de l'Éternel qui soit mentionné dans l'Écriture à Jacob. C'est d'ailleurs Israël qui partit tout ce qui était à lui. Et puis, il vient à Beersheba, pas très loin de la frontière Canaan, et il nous est dit que Dieu parla à Israël. Il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Il y a plusieurs autels dans la vie de Jacob. Il ressent la nécessité d'entrer en relation avec Dieu sur la base d'un sacrifice. Et cela est un signe de piété quand nous rappelons à nos cœurs combien est précieuse pour nos âmes l'œuvre parfaite accomplie par le Seigneur Jésus à la croix. Sans doute cette œuvre n'est pas à renouveler comme le faisaient les patriarches dans la perspective de l'œuvre de la croix. Mais il y a ici quelque chose aussi qui est touchant, qui démontre la piété de Jacob, c'est qu'il avait besoin de cet autel. Et Dieu lui parle de nuit. Maintenant, voilà un homme qui n'avance que lorsque Dieu le lui montre. Cette vie de dépendance est un signe aussi très sûr de la piété. Ce n'est plus l'homme qui calcule, qui fait sa propre volonté. Non, il a besoin que Dieu lui dise où il doit aller. Et nous voyons que là encore, Jacob, Dieu l'appelle à deux reprises par son nom et lui dit « Me voici ». Et alors Dieu lui communique cette parole « Moi je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains pas de descendre en Égypte ». Il aurait pu craindre de descendre en Égypte, sachant ce que son grand-père avait connu. Au fond, quand Abraham est descendu en Égypte à la suite d'une famine, nous voyons qu'il n'est plus question pour lui ni de la tente ni de l'autel. Il a perdu tous ses caractères d'étranger et d'adorateur. Et la figure est un symbole du monde dans lequel nous sommes. Et si le monde accapare nos cœurs, eh bien nous perdons ces caractères de témoins qui sont représentés par ces deux activités, par ces deux notions, le fait d'être étrangers sur la terre et d'être des adorateurs. Et Dieu lui dit, ne crains pas, tu peux aller, j'irai avec toi. Et quand Dieu nous dit d'aller, eh bien, il nous appartient d'obéir tout simplement. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi, je t'en ferai aussi certainement remonter. Et Joseph mettra sa main sur tes yeux. Et nous voyons Jacob obéir. Le mouvement de la foi s'exprime toujours dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu. C'est encore vrai. La parole n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Et on a pu dire à propos de l'obéissance que c'est le principe curateur de l'humanité. C'est toujours vrai. Quelqu'un qui obéit, qui fait la volonté de Dieu, eh bien, est un témoin pour Dieu sur la terre. Alors, eh bien, Jacob va aller. Après avoir bien souffert en pensant que son fils Joseph avait disparu, ce fils bien-aimé de l'épouse tendrement aimée, eh bien il va retrouver son fils Joseph. Et nous savons que ces 17 années passées en Égypte ont été un enrichissement pour cet homme qui ne s'est pas laissé éblouir par les richesses de l'Égypte. Les richesses de ce monde peuvent nous faire illusion au moins un temps. Eh bien, ni Joseph, ni Jacob ne se sont laissés éblouir par les richesses de l'Égypte. Et pourtant, la position de Joseph était très proche de celle du Pharaon, comme nous le savons. La meilleure preuve de cela, c'est que Joseph donne un ordre touchant ses os, pour que ses os puissent être ramenés par le peuple en Canaan, là où tous les patriarches étaient ensevelis dans la caverne de Macpéla près d'Hébron. La foi voit toujours le côté de Dieu et nourrit de l'espérance dont Dieu veut remplir chacun de nos cœurs. Et la fin de Jacob est extrêmement belle quand il adore lui qui est conscient de tout ce que la grâce de Dieu, sa miséricorde, lui ont dispensé tout au long de sa vie. Une vie peut-être courte et pourtant très riche en Dieu. La vie d'un Jean le Baptiseur, elle est très courte. Il meurt en pleine jeunesse, on peut le dire. Et pourtant, Dieu doit dire de cet homme, il a achevé sa course. Une course achevée à la gloire de Dieu, c'est quelque chose dont Dieu se souviendra et qui magnifiera sa miséricorde pendant l'éternité. Eh bien, Jacob a eu une course longue, sans aucun doute, mais il doit dire devant le Pharaon, « Mes jours ont été courts et mauvais, mauvais. » Voilà, voilà ce qu'il déclare concernant Jacob. Mais pour Israël, ce vainqueur de Dieu, eh bien, il est là, prosterné à la fin de sa vie, appuyé sur le bout de son bâton, réalisant qu'il n'a aucune force en lui, et il donne toute gloire à Dieu. Et il fait cela par la foi. C'est un acte de foi des plus beaux, lorsque, oubliant toutes les circonstances de notre vie terrestre, nous nous prosternons dans la présence de Dieu pour l'adorer. C'est la foi la plus pure et la plus élevée. Que Dieu soit glorifié par notre louange, par notre adoration. Nous le ferons sans doute pendant l'éternité, mais le faire déjà sur la terre, n'est-ce pas devancer la bienheureuse éternité?
Thank you. Yeah.